Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Souvenez-vous de l'épisode avec Manon Bohard, nous parlions de la gestion du stress et des émotions. J'ai donné comme exemple Thomas Bourry, qui après une première journée difficile sur l'Atlas Mountain Race et une visite express dans les ténèbres, a réussi à se ressaisir, se reconcentrer sur son plan et sa stratégie, avant d'entamer une remontée qui l'emmènera vers une très belle troisième place. Eh bien Thomas est avec moi aujourd'hui, un peu déçu, car je ne déclame plus mes introductions en direct. Et oui, c'est cela aussi la préparation mentale, c'est un état d'esprit, une volonté de se réinventer, de refuser de s'enfermer dans une posture. C'est accepter de changer, de bousculer ses habitudes, de remettre en question ses croyances et d'assumer sa véritable personnalité. Désolé Thomas, je sais que tu aimes quand je t'appelle Thomas Le Borgne, désolé à vous auditeurs et auditrices, mais je ne ferai plus le clown au micro. Je trace mon chemin et rassurez-vous, je garde mon humour et bien entendu ma singularité. Et pour en profiter ou en faire les frais, il faudra venir rouler avec moi. Et sans plus attendre, Thomas Bourry. Alors Thomas, premier jour de l'Atlas, les 15 premières heures, tu as lutté pour ne pas abandonner en constatant que tu n'étais peut-être pas au niveau attendu. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui, on rentre directement dans le vif du sujet.
Oui, j'ai arrêté les préliminaires, je suis trop vieux pour ça.
C'est vrai, c'est fini les intros à la Richard, je suis un petit peu déçu quand même.
Arrête de faire le vieux de la vieille, tu sais très bien que ça me fait rougir. Et réponds à ma question sans coup faire rire.
Oh là là, je m'attendais à une intro encore virevoltante et j'avais même un peu peur et du coup je suis un peu déçu.
Je virevolte à part maintenant, je virevolte en solo Thomas.
Ok. La question qui s'est passée pendant 15 heures, deux choses. Un problème une erreur de nutrition de ma part, où j'ai pas bien, je dirais, comptabilisé ce que je mangeais. Je pense que j'ai dépassé un peu mes seuils de tolérance au sucre. Sur une heure, je pense que j'ai mangé trop de sucre, ça m'a bloqué l'estomac. Derrière, j'ai eu des difficultés à m'alimenter. C'était un peu la boule de neige. Du coup, j'ai fait une hypo, vu que je ne mangeais pas. Et puis, associé à ça, un peu la spirale négative mentale de voir que ça fonctionnait pas trop physiquement. Et puis voilà, c'est la spirale. On se dévalorise, etc. Et puis le temps passe et ça passe vite. Et il s'est passé 15 heures, grosso modo.
Voilà,
et bim.
Voilà, je suis allé chercher une baguette, je suis rentré 15 heures après, j'étais dégoûté. Quoi. J'avais perdu 4 kilos et ma dignité, voilà. Tranquille. Bon alors, c'était quoi ce petit dialogue interne négatif et cette petite dévalorisation? T'étais au fond du trou, au fond du seau même d'après tes dires. C'est quoi alors ce petit dialogue interne?
Et ben, Le premier, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de dialogue interne. Par contre, il y a beaucoup de passivité dans les actions. C'est-à-dire que bon, faire une erreur de nutrition, c'est une chose. Ça arrive à tout le monde. Mais le premier remède, c'est de mettre en place des actions pour renverser la machine. Donc, essayer de remanger petit à petit, trouver des solutions, en trouvant des, je sais pas, des choses qui nous excite un petit peu plus en termes d'appétit que des gels ou des barres, par exemple. Et y a eu vraiment un côté passif. Je n'ai pas du tout trouvé de solution mentale pour trouver de la motivation à essayer de trouver des solutions, tout simplement. Donc j'ai été. C'est comme si j'étais à côté de moi à voir la situation se dérouler, mais à rien mettre en place. Donc c'est-à-dire que dans les faits, concrètement, ça veut dire quoi? Bah que tu avances, mais tu avances très lentement, vu que tu n'as pas d'énergie pour pédaler, mais tu avances quand même. Et puis, ça, c'est la première chose. Et après, vu que bon, je me suis quand même pas mal investi ces derniers mois, que ce soit dans ma préparation, après, l'Atlas, ce n'était pas une finalité, c'était plutôt une étape dans ma progression, je dirais, ou dans ma démarche sportive, je dirais, ouais, au global, voilà. C'était pas si grave que ça, mais on se dit quand même par rapport au travail, et même si je m'étais pas donné d'objectif précis de temps, de position, etc., parce que je considère que tous ces éléments-là, ce sont des éléments externes sur lesquels j'ai peu d'influence, donc j'ai évité de mettre ce type d'objectif avant de prendre le départ, pour éviter de me saboter encore plus mentalement, si ça n'allait pas. On ne peut pas s'empêcher quand même de penser que bah, on vaut quelque chose ou on mérite quelque chose par rapport à l'investissement qu'on a mis en place. Et donc, voir un peu cet écart entre le travail que j'avais fait et finalement la manière dont je pédalais, ça a été un petit peu dur. Mais la réalité, c'est que si la réussite était liée au travail, ça se saurait, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent en usine avec des jobs super difficiles et qui travaillent d'arrache-pied, ça se saurait finalement si on est la réussite était liée au mérite et au travail, enfin à l'investissement exercé quoi. La réalité, c'est qu'il y a tout un tas de paramètres.
La pénibilité du travail n'est pas le seul indice de réussite. Sinon, à ce compte-là, effectivement, tous les gars que l'on voit au bord de la route, en plein été ou sous la canicule ou l'hiver, sous la pluie, comme j'ai pu voir hier,
Serait beaucoup mieux rémunéré que ce que
seraient bien mieux rémunérés. Donc là, je suis bon. Par contre, Thomas, il y a un truc, tu mens, Thomas Bourri, tu mens, tu mens, tu bluffes, Martoni. Tu me dis, j'arrive sans objectif, mais par contre, que ce soit dans l'Yonne républicain, donc l'article que tu m'as envoyé ce matin, et ta dernière publication Instagram, tu mets, alors bien évidemment, le compétiteur en moi n'est pas satisfait, j'étais venu pour gagner. Thomas,
Mais
t'étais pas
c'est une
venu sans
chose de.
objectif, t'étais pas venu sans objectif, t'étais venu pour gagner.
Oui, mais c'est une chose de se le dire. J'ai envie de gagner. Bien évidemment que je fais des courses pour aller les gagner. Je viens pas pour juste participer à ce moment-là. Sinon, je pars en
Trier des
vacances.
pastèques.
Sinon, je pars en, voilà, je pars faire du bikepacking. Mais c'est quand je tra enfin, quand je prépare ma course, ok, je me dis que je veux la gagner. C'est une chose. Mais ça, on se le dit et on le met de côté. Ça sert à rien de se focaliser dessus parce que peut-être que même si j'avais eu la course la plus aboutie du monde, c'est-à-dire que j'avais pas eu ces 15 heures de trous un peu difficiles et que j'avais été au top du début à la fin, bah, peut-être que la course se serait passée exactement de la même manière et qu'il y avait un autre compétiteur qui aurait été devant moi parce qu'il est tout simplement meilleur à ce moment-là. Donc,
Ouais.
l'objectif, c'est pas de gagner. Bien évidemment, j'y vais pour gagner, mais mon objectif, c'était de donner le meilleur de moi-même. C'était vraiment l'objectif numéro un. Et ça, j'ai décliné ce que ça veut dire donner le meilleur de moi-même. C'était avoir un engagement constant mentalement du début à la fin. C'était comment de faire attention à mon matériel. Enfin, voilà, tout un tas de petites sous-listes que j'avais essayé de développer pour dire, ok, quand je finis cette course, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir fait du mieux que j'ai pu? Des fois, on finit des courses et on se dit, putain, ouais, je pense que j'aurais pu faire mieux. Bah, même si je suis pas vraiment satisfait de cette troisième place, je peux quand même être satisfait de me dire que j'aurais pas pu faire mieux sur cette course, compte tenu du contexte, de ce que j'ai mis en place, etc. Voilà.
Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce concept de checklist et de sous-objectif? Donc d'avoir cet objectif lointain qui est de finir ou de gagner, qui est une motivation plutôt externe, qui peut être très très variable selon les gens, mais sur laquelle, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas se focaliser, mais par contre de se focaliser sur de micro-objectifs qui sont... donner le meilleur de soi-même, donner le meilleur de soi-même, comme tu l'as encore une fois très bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérer son truc, rester engagé, gérer son matériel, rentrer en un seul morceau, kiffer la vibe, tout ce que tu veux. Et j'écoute Diams aussi, tu savais pas ça.
Comment est-ce que je fais? Alors, je vais pas te dire tous mes secrets, mais j'ai... un objectif.
Tu sais, c'est juste une liste, hein. T'es pas obligé de dire non. Le contenu, mais tu peux juste dire que t'as une liste. Bah, t'as mis tel ou tel point. T'es pas obligé de les donner en détail.
Non, mais j'ai
sachant que c'est pas un secret, mais c'est juste que c'est tellement personnel que même si tu les dévoilais, ça pourrait donner un angle de réflexion, une idée de réflexion. Mais copier la checklist de Thomas Bourri, c'est pas une bonne idée.
Non, mais l'objectif global, c'était donc donner le meilleur de moi-même. Un engagement fort, appliqué, combatif avec du plaisir. Voilà, c'était un peu le truc global, ce vers quoi je souhaitais tendre. Avant de mettre ça en place, l'objectif, c'était quand même d'arriver dans les meilleures dispositions possibles. Donc, ça veut dire quoi? C'était avoir le sentiment d'avoir fait une préparation la plus aboutie. Donc, je pense que dans les préparations, on a tous des aléas et des moments de moins bien. Mais j'ai le sentiment d'avoir travaillé beaucoup de choses que je pouvais faire, et dans le temps qui m'était imparti, dans les contraintes de la vie de tous les jours, etc. Donc ça, pour le coup, je suis plutôt satisfait. Et après, une fois que tu as ton objectif, cet objectif global sur la course, moi, je la divise un peu en différentes parties, cette course. Donc ça peut être des points géographiques, ça peut être... Bon, pour le coup, moi, j'ai fait des points géographiques, et pour chacun de ces parties, j'ai essayé de travailler des sous-parties et ce que je voulais faire pour chacune de ces parties. Donc, par exemple, un des points qui est toujours dangereux, je pense, dans les courses d'ultra, c'est les débuts de course. Parce qu'on part souvent trop vite, parce que on se laisse emporter par le flow, parce qu'on est excité, parce que ceci ou cela. Pour donner un exemple précis, mon premier objectif donc sur cette première partie, donc était entre le début de la course et le premier checkpoint, donc qui était après 100 et quelques kilomètres. Donc 7 heures ou 8 heures de course globalement. J'avais trois mots un peu qui m'animaient pour cette partie là c'était la confiance, la patience et la concentration. La confiance, pourquoi? Parce que tu sais très bien que si tu te laisses emporter par le flow et que tu manques de confiance, justement tu vas essayer de t'accrocher aux autres et de tenir ton rythme. Si t'es centré sur toi-même et t'es confiant dans tes capacités, du coup tu te focalises sur ton propre rythme et donc t'es super confortable de laisser partir les autres devant. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. La patience, pourquoi? Parce que c'est exactement ce dont on manque à chaque début de course. On est tout excité, on a envie de partir super vite, etc. Je me le suis rappelé comme mot-clé en fait pour cette première partie. La course est longue et il faut faire preuve de patience. Et puis de la concentration, parce que tout ça, des fois on est un peu guilleré, léger, on part un peu, on part la fleur au fusil, on est content, ça y est, après ces mois de préparation, la course se lance enfin, et on oublie des petits détails. Exemple type, bah, tu vois, j'ai pas réussi à être concentré à 100% puisque je me suis pas concentré correctement sur ma nutrition et à un moment donné, j'ai fait une erreur. Et ça, je peux m'en vouloir quand même. Alors, ça arrive, ok, mais du coup, bah, qu'est-ce que je mets en place là, pour la prochaine fois pour éviter de que ça se reproduise. Mais voilà un petit peu les espèces de sous-listes. Et du coup, bah, quand tu parles de, je sais pas, de confiance, de patience, de contentation, etc., qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi je me rattache? Un des points clés pour moi de cette première partie, c'était la confiance, la patience, la concentration. Comment ça se matérialise? Bah, ça peut se matérialiser, pour moi, c'était être en maîtrise de ma respiration. Donc, pas me laisser emporter justement par le flow, ou même si je suis pas le flow des autres participants, je sais pas, une montée arrive et puis en fait je m'aperçois que je m'emballe, je suis complètement en hypoxie, j'arrive pas à respirer, etc. Parce que je suis un peu stressé, du coup tu modifies un peu tes patterns de respiration et tout. Du coup, bah voilà, le sous-objectif c'était vraiment d'être en maîtrise de ma respiration. Voilà par exemple un exemple de cette première partie avec des espèces de sous-parties que j'ai essayé de garder en tête pour bien vivre ce moment-là.
Donc ça, c'était pour ta première journée qui, pourtant, ne s'est pas passée exactement comme tu le souhaitais. Et comme tu l'as expliqué juste avant, il y a eu un petit décalage entre les jambes du moment, peut-être un petit peu aggravées par cette hypo et par ce souci nutrition, où tu t'es retrouvé peut-être à une place qui n'était, entre guillemets, pas la tienne par rapport à l'investissement que tu avais eu.
Ouais, c'est
parce que je me souviens de conversations où tu me disais il y a quelques semaines, là je pars sur une semaine de 30 heures. Bon, c'est pas une paille quand même 30 heures dans une semaine.
Non, j'ai beaucoup travaillé pour arriver au niveau que je pense avoir aujourd'hui, mais encore une fois, j'ai beau avoir développé cette partie un peu physiologique ces derniers mois, y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu citais mon post Instagram et c'est pour ça que je le commence comme ça. J'ai marqué le cœur, la tête et les jambes. Je pense qu'il y a tout un... Ça, c'est vraiment une phrase que j'aime bien et que je me répète souvent sur le vélo parce que c'est ça, quoi. Il faut du cœur, il faut réfléchir et il faut les jambes, quoi. C'est un peu un ensemble de facteurs, quoi.
Est-ce que tu l'as modifié, ton poste? Parce que je ne retrouve pas la partie où justement tu parles de ce décalage entre tes attentes, ta préparation et ton niveau de ce moment-là.
Non, mais alors moi j'ai pas modifié mon poste. Après, je sais que l'Atlas a communiqué.
Voilà, c'est exactement ça. J'ai vu ce poste-là, par l'Atlas, exactement, pardon. C'est exactement ça.
Qui dit, je sais plus, je suis pas
que t'as été vraiment dans le dur, que t'as pensé à abandonner, et que quand tu faisais la balance entre l'investissement, la préparation et l'endroit où tu étais, en tout cas avec qui tu étais et où peut-être dans le classement, alors je t'avoue que le temps d'un instant parce que j'ai passé 4 jours scotché à mon ordinateur à regarder le tracking, ouais. Et je t'avoue quand sur les premières heures je t'ai vu à ces places entourées de ces athlètes, je me disais putain, tout ça pour ça. Mais je me suis vite repris parce que, comme tu l'as dit, c'est une course de patience. Je me suis aussi douté que tu... Alors, je savais pas que tu traversais une phase un peu difficile, mais je me suis douté plutôt en raisonnant que tu jouais plutôt le long terme. Et j'ai pas été étonné du tout de te voir remonter de manière spectaculaire. Mais c'est vrai que au tout début, quand je t'ai vu traîner avec Joshibet et que je faisais moi-même la différence entre ta préparation, tes conditions d'entraînement et la vie de Josh maintenant, je me suis dit « waouh, quand même ». Mais je me suis aussi souvenu que Josh, il y a 2 ans, je lui avais posé la question en lui disant « comment t'as géré ta vitesse? Est-ce que t'as accéléré sur la fin de l'Atlas ?» Et il m'avait dit « non, j'ai gardé la même vitesse pendant toute la course, ce sont les autres qui ont explosé ». Il est passé environ de la 70e à la 6e.
Non mais il faut quand même remettre. Enfin, l'Atlas là, c'est parti comme sur une course de cadet quoi. Enfin.
Mais oui.
On part de Marrakech. Je me mets à mon rythme et je me retrouve à ce moment-là devant le peloton et je suis à mon rythme. Je me fais rattraper par le peloton sur les premières pentes. Moi, je m'étais donné plusieurs indications. Je voulais faire les pentes, enfin les premières côtes. Je regarde un petit peu au début, je regarde un petit peu mon cardio, je regarde un peu la puissance, mais je m'attache surtout à la sensation, à l'effort. Et je m'étais dit, je veux faire les montées à 7 sur 10. C'est la ressentie que j'ai envie d'avoir. Et après, je sais que généralement, 7 sur 10, ça me donne tant de pulse, tant de watts, etc. La réalité, c'est que tu sais très bien, à ce moment-là, moi, je suis à peine 60 kilos tout mouillé, que j'étais quasiment à 300 watts, si on peut parler pour les amoureux des chiffres, ça leur fera plaisir, j'étais quasiment à 300 watts à ce moment-là. Tu sais très bien que sur une course qui va durer 4 jours, c'est déjà des valeurs qui sont importantes, et je me faisais passer par des mecs qui faisaient probablement mon poids ou à peine plus, mais passer super vite. Donc forcément, si moi je suis à 300 watts, que je fais un peu plus de 60 kilos, et que eux me dépassent, donc ils sont forcément un peu plus, ça ne va pas tenir. Tu sais très bien que dans le paquet, il y en a peut-être 5 qui vont réussir à tenir, même pas. Et tu sais même que les mecs qui vont réussir à tenir sont forcément déjà dans leur seuil haut, dans leur valeur probablement. Enfin, donc j'étais vraiment pas du tout inquiet de là où je me suis trouvé à ce moment-là. Et d'ailleurs, je m'étais donné un autre sous-objectif dans la course, c'était de pas regarder le tracker avant le kilomètre 600 minimum. Et j'ai tenu ça presque, puisque j'ai regardé une fois le tracker après avoir dormi, donc la seconde nuit, et j'étais au kilomètre 400 ou 350, enfin après la première nuit quoi, à Itzaoun, je me réveille et je regarde un petit peu vite fait qui y a devant, voilà. Et heureusement que j'ai pas regardé le tracker avant ça, parce que et je savais, je suis arrivé au checkpoint 1, ils m'ont signé sur la feuille d'émargement et il y avait 17 personnes ou 16 personnes devant moi. Donc mais je suis pas inquiet. Ces courses, les courses d'ultra partiront toujours de plus en plus vite. Après, je pense qu'il y a un peu un dosage à avoir, quoi.
Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on le sait, c'est qu'à chaque course, on voit des mecs partir hyper vite. Parmi les trucs, tu vois, qu'on pourrait dire sur lesquels on n'a pas le contrôle, et justement, comme tu l'as dit, il faut être patient et confiant en ses capacités et se dire que oui, ça va partir vite, que oui, on doit rester à sa place et tenir sa stratégie. On voit quand même à chaque course des mecs partir hyper vite et exploser peu après. Bon, en tout cas, plus ou moins peu après. Mais ça, on le voit. C'est quand même incroyable que l'on assiste encore à ça, alors qu'à chaque course, on voit les dégâts.
Ouais, clairement. Après, bah, je pense que c'est exactement ce qu'on disait avant, c'est que c'est le départ de la course. T'as aussi. Moi, j'ai dû vachement me rassurer et travailler là-dessus, justement sur la confiance, parce que tu sais très bien que dans le paquet, il y en a qui vont sauter, mais il y en a qui vont tenir. Et d'ailleurs, Justina, c'est le Namibien, bon, ils ont pas craqué. Hein. Le Namibien, il a un problème à la fin, ok, c'est une chose, mais je veux dire, Justina, si tu sens que ça, ils ralentissent vraiment le rythme sur la fin de l'épreuve, vraiment par rapport, il y a une vraie différence, c'est moins lissé. Mais globalement, il y a quand même, et on le verra de plus en plus quand même dans les courses à venir, il y a des profils qui vont pas craquer. Hein. Donc c'est aussi, t'es aussi un peu dans cet état-là, d'entre-deux, en te disant, bon, je laisse partir ou je laisse pas partir? Je fais une course d'attente et je me concentre sur moi, ou j'essaye quand même de regarder un peu le truc? Moi, je m'étais donné un cap qui était de me dire, je me focus sur moi les 600 premiers kilomètres, et après, je regarde où je me situe et j'adapte un peu mes stratégies. Mais est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est le bon? Je sais pas. On verra dans les prochaines courses. Et là, ça a payé un peu, mais ça m'a pas permis de gagner en tous les cas. Voilà.
Comment t'as réagi à ta première journée? T'avais prévu une stratégie avec, comme tu disais justement dans le poste de l'Atlas, de rouler fort et de dormir, de quand même maintenir une quantité de sommeil correcte. Qu'est-ce qui s'est passé la première nuit? T'as eu, ou la deuxième, t'as eu besoin de faire un reset, je crois.
Ouais, j'ai partagé une story où je dis qu'en gros, fallait vraiment que je remette à zéro, surtout la tête, parce que physiquement, en gros, donc j'ai beaucoup de mal à m'alimenter sur la fin de la nuit, le coup d'hypo vraiment s'étend en termes d'énergie, j'ai pas d'énergie du tout les trois quarts de la journée. Mais tu sais que globalement, si tu t'arrêtes de dormir, etc., ton estomac, le lendemain, tu vas pas passer 4 jours avec un mal au ventre et ça va se remettre. Mais j'avais vraiment la tête à l'envers la première journée, quoi. La réalité, pour te le dire vraiment, je pense que j'ai atteint le pic de ma motivation pour la course 15 jours avant. Dans ma préparation, je pense que je me souviens partir en Camargue, 15 jours avant, faire un dernier week-end un petit peu de balade et un peu long. Et je pars là-bas, et pendant que je pédale et tout, pendant les deux jours, je me dis, mais putain, mais j'ai les crocs, j'ai envie de tout bouffer, quoi. Je me sens galvanisé, je me sens content de ma prépa et tout, et surtout, au-delà de l'aspect physique, mentalement, mais c'est le feu à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'est l'explosion, quoi. Et à partir de ça, la semaine qui suit, je suis un petit peu malade, je roule pas beaucoup, je crois que je fais à peine 3 heures ou 4 heures de vélo. J'ai 2-3 mauvaises nouvelles sur le plan perso qui viennent un peu là-dessus. Et du coup, en gros, entre ce moment-là et la course, les 15 jours qui ont suivi, j'étais un peu dans un espèce de flottement. J'étais, cela dit, pas trop inquiet parce que j'étais sûr que quand j'allais monter sur le vélo, le truc allait cliquer. De toute façon, la grinta, les mantras, tout ça, ça allait revenir et ça allait se mettre en place, mais un peu le flottement. Et je pense que pendant cette première journée, j'ai pas retrouvé le Thomas super engagé que j'avais connu 15 jours auparavant. Et donc la première journée, elle se déroule, bon bah voilà, pas très bien, etc. Mentalement, c'est vraiment la cata. Je me suis méga dévalorisé. Tu te dis bon bah que t'es une merde, que je me posais pas mal de questions sur le plan professionnel. Tu te dis bon bah ok, ça marche pas non plus sur le vélo. Alors c'est compliqué peut-être un peu professionnellement, et puis tu te dis ça marche pas non plus sur le vélo. Tu essaies de te rattacher un peu aux branches, et là j'avais la branche qui se cassait, sachant qu'il faut quand même le dire, cet hiver j'ai priorisé mon projet sportif au projet professionnel, donc j'ai moins travaillé pour plus m'entraîner. Donc c'était aussi un peu un risque de dire bon bah voilà, quand tu fais une semaine de 30 heures, tu travailles assez peu à côté finalement, hein. C'est quand même compliqué d'aller faire un 35 heures à côté de tes 30 heures de boulot, enfin de vélo. Donc il y a eu aussi un peu un risque financier, tout ça, et tu te dis bon bah ça marche pas, voilà. Donc mentalement un peu la spirale super négative, bah je suis bon à rien, je me suis dit allez ok, je vais m'arrêter, je vais abandonner. Et puis je faisais déjà la liste des gens à qui j'allais écrire pour dire bon bah voilà, j'ai abandonné, t'écris aux sponsors, t'écris aux gens. Cette année, je roule sur un vélo chez Epsilon Bike, qui est une marque à Lyon. Les deux artisans qui m'accompagnent avec deux vélos cette année. Quentin, il a travaillé super dur pour me sortir le vélo en un mois, from scratch, quoi, vraiment peindre le vélo, l'assembler, tout ça. Et tu te dis bon bah ok, t'as des gens qui sont vraiment investis pour toi et toi tu vas les décevoir. Donc je me voyais déjà en train d'écrire sur LinkedIn moi qui avais communiqué un petit peu auparavant en disant bon bah je vais vous faire vivre la course de l'intérieur, je vais vous écrire bon bah voilà anatomie d'un abandon, j'avais déjà le titre, tu vois.
Non, ça c'est déjà pris, je l'ai fait,
voilà, j'aurais pu reprendre quoi, mais bon. Et après, bon, bah, les heures, elles passent, mais tu te dis quand même, bon, ok, je me suis vraiment raccroché à ce que je connaissais, je pense, de l'expérience de l'ultra, qu'une course, elle se fait pas sur une journée, que tout le monde, si j'ai un coup de moins bien, bah, les autres aussi ont des coups de moins bien. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir eu des problèmes de nutrition sur le début de la course. Il y en a plein d'autres qu'en ont eu, justement parce que eux, je pense qu'ils sont partis trop vite. Moi, je suis pas parti trop vite. Je fais vraiment une erreur que j'attribue à être étourdi, à pas vraiment calculer, etc. En gros, maintenant, je mets plus de poudre dans mes bidons, mais je mets du sucre blanc. Et du coup, bah, Donc tu bois, mais quand je dis je mets du sucre blanc, par exemple dans mon bidon d'un litre, j'ai quasiment 200 grammes de sucre mélangé. Donc si tu fais pas gaffe en fait et que tu continues de boire comme si tu buvais de l'eau naturellement, plus si à côté tu prends une barre et un gel, t'exploses ton quota et tu peux très vite te déglinguer le ventre. Voilà. Et donc bref, donc il y a eu d'autres gens qui ont eu des problèmes nutritifs, probablement par un mauvais pacing. Mais donc tu te dis, bon bah si ça m'arrive à moi, ça arrive aux autres. Et puis tu prends ton mal en patience et tu te dis que ça va passer. Et je me suis vraiment raccroché dans cette journée en me disant, ok, bon, de toute façon cette première journée elle est ce qu'elle est, à part faire le monde. Maintenant, il faut regarder devant et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et puis, la fin de la première journée, j'ai réussi à remanger du salé, j'ai pu manger une omelette, ça m'a un peu requinqué, etc. J'avais gardé mon plan de marche et je savais que, dans tous les cas, j'avais prévu de dormir. J'hésitais entre 3h et 4h30 et choisi pour cette deuxième nuit, du coup, de dormir. Je me suis arrêté 4h30. Et j'ai pas choisi 4h30 au hasard, j'ai plutôt essayé de compter en cycle de sommeil pour pas me réveiller au milieu d'une phase de sommeil profond et d'avoir la tête dans le cul.
Évidemment.
Ainsi que c'est 1h30, donc c'était un multiple, hein. Soit c'était 3h, soit c'était 4h30. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Déjà, physiquement, pendant ce temps-là, tu mets vraiment des process de récupération en place. J'avais mangé en plus juste avant, donc ça m'a. Tu synthétises un peu mieux les aliments que t'as mangé. Et puis mentalement, le sommeil, c'est la clé pour être. On voit bien, quand tu passes une mauvaise nuit, le lendemain, t'es irritable à la maison. C'est ça exacerbé x10 sur une course de vélo, en fait. Quand tu dors pas, j'avais l'expérience de la GTMC où j'avais dormi, je sais plus, 7 heures en 6 jours. Je finis, je suis super triste, je profite de rien. Alors que je suis exactement en train de faire ce que j'aime le plus, du vélo. Et donc, après 4h30 de sommeil, je me réveille et je suis frais comme un gardon.
Bon, alors déjà, j'aimerais dédier ce paragraphe sur les 200 grammes de sucre blanc dans ton bidon à Guillaume Klein, qui certainement, paix à son âme, vient de faire un arrêt cardiaque lui aussi. Donc, je suis désolé Guillaume. Ouais, je suis sûr que là, quand il aura écouté ce passage-là, il sera roulé en boule, en train de pleurer, bouffer de la glace, en bas de son lit.
C'est pas quelque
roulé chose. Roulé dans une couverture.
C'est pas quelque chose que je recommande.
Non.
Mais pourquoi j'ai fait ça? En gros, l'Atlas, il y a une vraie problématique quand tu traverses l'Atlas, c'est que c'est les ravitaillements et ce sera la même chose globalement sur des courses comme la Silk Road, etc. C'est comment est-ce que tu t'alimentes correctement. Et partir avec sa poudre de glucides, etc., c'est bien pour faire ta première journée, mais globalement, une fois que ta première journée elle est finie, tu fais quoi? Tu mets de l'eau dans tes bidons ou tu mets du coca, mais c'est tout, quoi.
C'est pareil. Ben,
moi, ça fait plusieurs mois à l'entraînement que j'ai remplacé toutes mes poudres. Je prends toujours des gels ou des barres, bien évidemment, mais... j'ai décidé de mettre du sucre dans mes bidons et en gros j'ai augmenté un peu mes tolérances. Donc par exemple dans un bidon d'un litre je vais mettre 170 grammes de sucre max. J'ai une texture qui est pas trop épaisse, j'arrive super bien à la digérer. L'avantage c'est que le sucre c'est universel et t'en trouves partout dans toutes les échoppes où tu vas.
Ça je le comprends.
T'en trouves. Le désavantage c'est que t'as une glycémie qui fonctionne beaucoup plus en pic. Effectivement que si tu prends des poudres classiques avec des ratios de fructose-glucose qui sont à 0,8 pour 1, mais globalement le sucre c'est 1 pour 1 en termes de ratio fructose-glucose. Donc oui t'as une glycémie qui fonctionne plus en pic, mais en gros moi ça m'a quand même bien aidé de pouvoir accéder à... t'es au milieu de l'Atlas, tu t'arrêtes dans un bled et tu te remets
tu trouveras toujours
160 grammes de glucides dans ton bidon en plus de partir avec des barres, etc. Si d'un point de vue gastrique t'arrives à apprécier la texture, à le digérer, etc., c'est tout bénef. Donc j'avais travaillé ça en amont et je répète le désavantage par contre que ça effectivement glycémie super haute, super basse, c'est un peu les pics, donc faut apprendre un peu à le lisser. Et puis la texture est pas si épaisse que ça, et donc tu peux vite boire beaucoup. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu te casses le bide. Parce que si tu te mets un demi-bidon, par exemple, en deux gorgées, tu t'es mis 90 grammes de sucre. Si derrière, tu as mangé 2-3 gels ou un truc comme ça, ou une barre, en fait, bien évidemment, ta tolérance, elle est... Moi, j'arrive maintenant à monter entre 100 et 120 grammes par moment sur des efforts intenses, en l'ayant travaillé en amont. Et c'est, et faut, ça marche pas tous les jours encore. Tu sais que du coup, tu peux vite avoir le problème inverse, quoi, vraiment te faire mal au ventre et pas arriver derrière à t'alimenter. C'est un peu ce qui m'est arrivé, quoi.
J'étais un petit peu, au-delà de tes histoires de sucre, j'étais un petit peu étonné par le nombre de défaillances sur problèmes digestifs, intestinaux divers à différents moments de la course, dont le tien par exemple en première journée, et je ne peux pas m'empêcher quand même d'attribuer ça à du stress et à une forme de gestion de la pression.
C'est certain.
Toi ou les autres, hein.
Ouais.
Tu peux rajouter aussi une petite touche d'épuisement pour les plus chevelus d'entre eux, mais je trouve qu'il y a quand même eu, on a quand même vu une gestion du stress et on a quand même vu une grosse pression, pas toujours très très bien digérée. Je vais pas déballer les noms maintenant et voilà, c'est plutôt, on en parlera plutôt en privé. Mais j'aimerais bien quand même revenir sur justement tes petites erreurs, ton étourderie, parce que je te connais quand même bien, et là ça fait 33 minutes que tu parles, et pour ceux qui ne te connaissent pas, il est évident que tu es structuré, cadré, que malgré ce que tu m'as dit en off ce matin sur WhatsApp, en me disant je ne suis pas un cycliste, je suis un cycliste, je suis pas cérébral, c'est entièrement faux, tu mens Thomas Bourri, tu mens, ne dis pas le contraire. Et je suis étonné, sidéré, interloqué que tu fasses cette petite erreur d'étourderie. Et question subsidiaire, t'as eu du mal avec les deux semaines avant la course. Est-ce que la journée gratos due aux intempéries t'a perturbé? Je t'ai vu rouler la veille. Mmh. Tu as fait une story easy spinning. Tu notes que je te suis, hein, quand même,
merci. Passage.
Tu vois, hein. Non, mais je prends des notes, hein. Tout ce que tu diras pour être retenu contre toi. Est-ce que il y a quand même pas un petit truc que t'aurais un peu merdé quand même, justement cet équilibre entre tenir ton plan, ta stratégie, tes très bonnes intentions, ta checklist excellente et cet objectif de victoire? Est-ce que il y a pas encore une petite étape à apprendre? Est-ce qu'il y a malheureusement ou heureusement encore une petite étape d'apprentissage à consolider?
Alors vraiment, sans langue de bois,
vas-y.
Je me suis pas senti stressé par l'enjeu de la course avant de partir. Vraiment, j'étais content d'être là, j'étais content enfin de prendre le départ. Et le décalage de la journée ne m'a pas. Bien évidemment, c'était un peu particulier comme attente, mais j'étais dans un hôtel à côté du départ, donc j'étais plutôt à l'écart des gens et j'étais très au calme et j'étais dans ma chambre. Enfin, je suis pas trop sorti les jours d'avant la course. Je suis allé boire un café ou deux avec ma main, ou j'ai vu un petit peu de monde, mais j'ai quand même essayé de me. Moi, j'aime bien ces temps aussi un peu pour moi avant la course. J'ai du mal à faire comme si la vie était normale avant bien évidemment une course avec des enjeux et où tu sais très bien que pendant 4 jours mentalement ça va être quand même, ça va te demander beaucoup de ressources. Donc j'étais bien au calme, j'étais super bien. Je suis plutôt parti dans des exos de respiration, donc j'ai fait pas mal d'exos de respiration les jours, même semaines d'avant. Enfin, c'est une pratique que j'aime bien. Je dirais
Jacques Mayol la veille de la course, quoi.
Dans mon quotidien, exactement. Je fais de la respiration carrée. J'ai eu le plaisir de. Donc je bosse plus actuellement, mais avec une prépa mentale qui s'appelle Anne Fourier et qui m'a permis de travailler cet hiver sur une technique de respiration qui s'appelle de Oxygen Advantage. Qui est une pratique faite par un mec qui s'appelle Patrick Meadow ou je sais plus comment. En gros, mais qui met en avant la respiration par le nez, et donc j'avais plein de petits exos et donc voilà, ça m'a permis, je trouve, de niveler tout ce stress d'avant course. Mais je pense effectivement que j'étais stressé par euh, par ces, un peu ces soucis personnels que j'allais devoir traiter après la course, c'est certain. Et c'est sûr que ça joue bien évidemment sur ton état, sur ton système digestif en début de course, ouais. C'est certain. Par contre, pour la première fois, vraiment, je me suis pas senti pris un peu au niveau de l'estomac au départ de cette course, comme j'ai pu l'être, je pense par exemple à Furzer, même Furzer en septembre l'année dernière, où j'étais plus serein, je savais ce que j'avais mis en place, etc. Mais j'ai quand même pris le départ la première journée. Je pense que j'étais quand même un peu noué au niveau de l'estomac, lié vraiment à ce stress des enjeux, d'avoir l'envie de bien faire, de venir pour gagner, etc. Et là, vraiment, je pense que c'est un des caps que j'ai bien réussi à passer, c'était d'avoir clairement l'ambition de venir pour gagner, mais de me détacher de ça et de me dire cool. C'est que du vélo, fais-toi plaisir, etc. Et je suis assez content d'avoir dissocié ça. Après, est-ce qu'il y avait du stress lié à d'autres facteurs? Je pense que oui, clairement. Mais je trouve que je suis parti dans des bonnes conditions quand même. Je suis désolé, c'est vraiment pas une langue de bois. Hein. Je le pense vraiment et je me voile pas la face sur le stress que j'ai pu avoir auparavant. C'est bien dans mes pompes quand même.
Non, mais ça je le sais. Ça, c'est une évidence. Il reste des petites choses à travailler, mais d'une manière générale.
Il y a des erreurs, je pense que.
Mais c'est normal, ça, c'est pas la fin du monde. Attends, j'ai noté un truc parce que j'étais en train de prendre des notes. Pour ma prochaine attaque. Ce n'est que du vélo. T'es bien sûr?
Eh bah oui. Même si c'est du vélo sérieux, parce que j'y mets beaucoup de cœur et d'énergie, c'est que du vélo. Hein. On n'est pas en train de changer la face du monde. On a déjà eu cette phrase dans le podcast ensemble. Je reste convaincu que c'est que du vélo. Après, oui, bah, j'y mets beaucoup d'énergie, mais si l'énergie que je mettais était forcément la clé de la réussite, ça se saurait. Encore une fois, il y a plein de paramètres que je maîtrise pas. Donc oui, je me suis entraîné dur, mais plein d'autres participants se sont entraînés aussi dur que ce que j'ai fait, peut-être aussi longtemps, ont mis en place des choses dans leurs agendas pour peut-être mieux performer, etc. Je suis pas le seul. Et d'ailleurs, je pense que ce serait une erreur de se dire parce que j'ai travaillé dur, alors je mérite de gagner. Non, c'est
dire. Alors, à quel endroit tu as pêché? Si justement l'entraînement, la préparation physiologique ne suffit pas pour gagner et que tu pêches dans certains endroits, quels sont les endroits où tu as pêché?
Bah le débrief de la course que je n'ai pas fini encore. Je suis en train de le finir cette semaine. Je prends des notes, je mets des débriefs. Qu'est-ce que je peux améliorer, pas améliorer, etc. Ce qui a marché, pas marché. Je crois que le vrai truc à améliorer, c'est la reconfiguration mentale. Je pense que j'avais travaillé mentalement sur plein de trucs en me disant s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je mets en place, etc. J'avais bien évidemment élucidé la question de si j'ai une défaillance nutritive, si j'ai une défaillance mécanique, comment est-ce que j'essaie de réagir mentalement et un peu, les process qui se mettent en place, donc t'as une crevaison, tu sors le petit programme de ta tête, ok, j'ai besoin de mon plug, j'ai besoin de m'arrêter, enfin t'as toute une série d'actions à mener, mais ça peut être aussi mentalement de se dire je reste en maîtrise de ma respiration, je suis pas stressé, tu vois, enfin un genre de choses. Clairement, il y a encore du travail à faire pour. J'ai réussi à me reconfigurer, mais je trouve que j'ai mis trop de temps. Je pense que j'ai besoin là de trouver des solutions plus rapidement, et peut-être parce que j'avais pas suffisamment déroulé le fil rouge en amont de cette course, aussi parce que j'avais décidé de pas forcément travailler. Je m'étais posé la question dans ces 15 jours un peu de flottement, est-ce que j'appelle Anne pour bosser avec elle parce que je me sentais pas très bien. Et je pense clairement qu'elle aurait pu m'aider, et tu m'as gentiment proposé de qu'on fasse un point si je voulais revoir 2-3 choses, etc. J'ai décliné. Je pense que j'avais aussi besoin de trouver cette autonomie sur comment je me prépare à une course, et je voulais pas tomber dans, vu que j'étais quand même, j'avais acquis certaines certitudes sur mon niveau et que je pouvais je sais plus qui m'a posé la question, mais tu pensais vraiment pouvoir arriver à ce niveau-là et tout. Oui, bien évidemment. Enfin, en restant humble, je pensais quand même jouer les premières places, en toute humilité. Mais je voulais pas.
C'est quand même que du réalisme, hein, Thomas, parce qu'on le sait tous, hein, que t'en es capable.
C'est gentil.
Toi le premier.
Oui, maintenant.
Pas non plus.
J'ai plus trop de doutes là-dessus. Mais je voulais pas que, en cas de succès, je me sente lié à ou dépendant d'un process, par exemple. Tu vois, de me dire, ah, ok, cette course-là, j'ai gagné. Mais du coup, par exemple, le rendez-vous d'avant-course de préparation avec Anne a été un facteur primordial de la performance. Je voulais pas me sentir lié à ça. Je pense qu'il y avait, il y a des choses à améliorer. Donc, pour résumer, il y a effectivement des clés mentales à trouver pour essayer de trouver des solutions plus rapidement, arriver à basculer, parce que des situations de course comme celle-ci, je vais en revivre encore. Ça va arriver, c'est certain. On a tous à un moment donné, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et d'ailleurs, les jours qu'on suivit, c'est pas ok, j'ai eu cette défaillance le premier jour, ça a été compliqué, mais les trois jours suivants ont juste une succession de challenges à relever et de conditionnement un peu qui a été mieux mené, mais c'est pas comme si tout s'était passé idéalement comme je l'avais prévu. Ça se passe jamais comme on le prévoit. Mais il y a des choses à améliorer sur comment on se reconfigure, à quoi est-ce qu'on se rattache, etc.
Est-ce que tu as eu peur de décevoir? Bah, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette peur de décevoir ton entourage? Qu'est-ce que tu as peur de quoi tu as plus peur? Te décevoir toi ou de décevoir ton entourage? Ton père ou ton grand-père, par exemple, qui est lyonne républicain?
Lyonne républicaine.
Oui, bah, excuse-moi, je suis pas de là-bas, hein. Moi, c'est le Berry républicain, non, voilà, tu vois, chacun ses problèmes.
Pour te répondre, je pense que la plus grosse déception, elle est personnelle. C'est l'estime de soi, en fait, qui est le plus touchée, je trouve, parce que je suis convaincu maintenant que, de toute façon, la famille ou les bons copains ou l'entourage proche, que je fasse du vélo, que je finisse premier, troisième ou dixième ou dernier, ou que j'abandonne, ils m'aimeront toujours pour ce que je suis, pour les valeurs que j'ai sur, mais aussi et surtout en dehors du vélo. Et donc, je suis pas inquiet de me dire, oh là là, si j'abandonne, ça va remettre en cause mes amitiés, ils vont penser que je suis une merde. Vraiment, je me dis pas ça. Par contre, en termes d'estime de soi, la première journée, clairement, quand je m'imagine en train d'abandonner, etc., j'ai même déroulé le fil de « je voyais ma dépression d'après-course ». Parce que tu sais très bien que t'abandonnes, etc., mais ça te met... on n'en parle pas trop, quoi, des athlètes qui, parce qu'ils réussissent pas derrière, c'est les spirales méga négatives, se sentent complètement dévalués, etc. Et pour remonter la pente, bonjour, hein, y a du travail. Hein. Et je me voyais plus là, quoi. Vraiment un peu seul sur mon bateau, avec mon entourage bienveillant qui me disait « Mais non, mais c'est pas grave, t'es pas que ça. »
C'est que du vélo.
C'est que du vélo, exactement.
Bah ouais, c'est pour ça que tu tapes une déprime derrière.
Mais je me voyais déjà dans la déprime complète, quoi, parce que... Donc je suis pas inquiet pour mon entourage et ma famille, mes amis, mais plus sur l'estime personnelle. Et à un moment donné, tu sais très bien que ce travail-là, il vient que de l'intérieur. Les gens pourront t'accompagner, être bienveillants, mais ça, si t'as pas l'intime conviction que tu vaux la peine, enfin que je sais pas, que t'es méritant, que t'es quelqu'un de bien, etc. Les gens pourront pas le faire à ta place, quoi. Ce travail-là d'estime de soi, de valeur.
Alors pourquoi tu n'as pas lu l'article justement de Lyonne républicaine? Pourtant, ton grand-père a adoré l'article, hein. Il en est très très fier, et ton père aussi. Mais alors pourquoi toi tu ne l'as pas lu? Je te rappelle que tu me l'as dit ce matin. Hein.
Ouais, bah parce que, enfin, je l'ai lu après du coup pour quand même être sûr de ce qui a été écrit dedans. Bah, je relis le truc. Finalement, il y a encore un truc sur deux qui correspond pas à ce que j'ai dit. Que c'est du sensationnalisme. Enfin, on peut.
Bon, c'est vrai que le titre, la star de l'ultracyclisme. J'avoue que c'est un. Alors, la star dans Lyon. Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas très très nombreux, peut-être.
C'est ridicule.
Attends, je vais quand même vérifier où c'est Lyon, parce que je suis pas totalement sûr de mon coup.
C'est en dessous Paris, quasiment, hein. Voilà, vers Sens. On pourrait... Mais j'ai pas besoin de...
Ah, mais oui, d'accord. Attends, ok. Ah, mais c'est d'accord, c'est l'entrée du Morvan. Auxerre. Chablis, Tonnerre, Vézelay, Avallon. Mais magnifique.
Voilà, le Morvan. Non, mais... Voilà, je sais plus dans quel podcast, il y a pas longtemps, Sofiane disait personne s'assoit et regarde ses coupes en se disant putain, c'est incroyable ce que j'ai fait et tout. Et c'est ça, et c'est super vrai. Je vais pas me galvaniser, je suis content de la course au global à peu près, ça va. Et après, bah voilà, ça y est, c'est rangé quoi. Maintenant, on passe à autre chose. Là, ça va faire 10 jours. Je récupère. J'ai d'autres projets. Du coup, je suis un peu plus sur la partie professionnelle. Je reprendrai l'entraînement la semaine prochaine. Et puis, on continue, quoi. On avance. Sur mon bureau, j'ai mon tagine, quoi. Mais bon, je le regarde pas tous les matins en disant putain, t'es une bête, quoi.
Regarde ça. Pas un pet de graisse, quoi.
Ouais, c'est ça. À gicler dans les bosses, quoi.
Grave.
Non, bon, ce week-end, je vais voir des copains à Bruxelles. On va faire un peu la bringue. On va trinquer à cette troisième place et c'est super. Mais lundi prochain, bah ouais, retour au travail et puis on continue, quoi.
Et ton sentiment d'imposteur, ton syndrome de l'imposteur, il va comment ?
Je me sens un peu plus légitime, mais je pense que je le savais avant. D'ailleurs, je pense que même si demain je gagne une grande course de l'ultra endurance, je crois que j'aurai toujours ce syndrome-là, parce que de toute façon, encore une fois, c'est un travail intérieur à faire et ce serait un miroir que de penser parce qu'on réussit un objectif qu'on s'est donné que les choses vont changer du tout au tout. Et je crois, enfin, ça marche sur plein de trucs finalement. Se dire, est-ce que si je gagne l'Atlas demain, mon sponsoring va changer de A à Z ? Est-ce que je vais être le roi du pétrole et pouvoir vivre du vélo ? Non. Est-ce que demain, si je gagne l'Atlas, je me sentirai le plus fort du monde et je me sentirai en pleine confiance sur toutes mes capacités, non plus, je pense pas. Par contre, je me sens plus légitime d'avoir, de dire peut-être plus fort et dans ton podcast ou dans un média, oui, j'ai l'ambition de gagner. Mais et je pense que ça rassure aussi peut-être, ça me rassure moi, mais les gens qui m'entourent. Je crois pas qu'ils aient douté que j'étais capable de le faire. Moi, j'en ai douté à un moment donné, j'en doute de moins en moins, mais parce que je me rattache vachement au travail. Mon syndrome de l'imposteur, je l'efface par le travail. Je pense que j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, et je sais plus comment j'avais parlé. J'avais dit que je m'étais attaché à l'exécution quotidienne. Et c'est super vrai, en fait. Je maîtrise pas la finalité d'une course ultra, par contre je peux maîtriser l'engagement que je mets tous les jours à travailler, et puis il y a des jours qui seront moins bons que d'autres. J'ai eu des séances qui étaient cata, je me suis rappelé, par contre je suis super fier que dans chacune de ces séances, même des séances où il y avait des valeurs qui n'étaient pas les bonnes, etc., j'ai toujours réussi quasiment là sur la plupart des séances à m'engager jusqu'au bout. C'est-à-dire que je sais pas, t'as un intervalle à tant de watts, tu vois tes watts descendre au fur et à mesure ton intervalle, tu peux te dévaluer et te dire j'arrête la séance parce que de toute façon j'ai plus les jambes, c'est pas la bonne journée, etc. J'ai réussi à chaque fois à mettre ça de côté et à me dire tu vas jusqu'à la fin de ton intervalle et tu t'engages à 100% de ce que tu peux faire avec ce que t'as aujourd'hui. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai mis dans mon post Insta, c'est qu'il n'y a pas de bonnes conditions et qu'il y a la bonne attitude. Et ça fait un peu moralisateur ou big speech de dire ça, mais moi, c'est des phrases qui m'emmènent tous les jours, en fait. C'est des petits mantras, des trucs que je me dis tous les jours quand je suis sur le vélo et que c'est difficile pour essayer de m'élever, en fait, être une meilleure version de moi-même, quoi. se dire, penser qu'il y aura les bonnes conditions, la bonne course, qu'il n'y aura pas de problème perso ou quoi que ce soit, c'est de l'utopie en fait. On a tous des problématiques à gérer dans nos vies. Et du coup, par contre, d'avoir ouais, on peut choisir la manière dont on fait face aux choses, quoi. Voilà.
Alors, je suis partagé entre deux aspects, entre dire une grosse connerie et te féliciter pour ce petit paragraphe. Alors, je vais commencer
par la connerie.
Ouais, je vais commencer par citer Jennifer et la positive attitude. Voilà, la positive attitude.
Yes.
Et n'empêche que. Et pour faire la transition pratiquement parfaite, c'est que on parle depuis ce matin, enfin depuis tout à l'heure, de préparation mentale. On dit le mental. Thomas, t'as fini au mental. T'as fait une fracture du mental le premier jour. Sauf que, c'est ce que j'en ai déjà un petit peu parlé il y a deux semaines avec Manon Board, le terme mental en lui-même n'existe pas. Et en tout cas, sa définition dans le dictionnaire, ce n'est pas ça. Par contre, ce que l'on pourrait faire, c'est lui trouver un petit synonyme, comme par exemple état d'esprit ou mentalité. Et toi qui aimes bien les anglicismes, on pourrait aussi lui attribuer le mindset. Et c'est exactement ce que tu viens de dire finalement, c'est la manière, l'attitude avec laquelle on aborde les choses, les aborder par la difficulté, avec l'amour de la difficulté, de ne pas espérer se simplifier les choses, d'avoir un engagement au quotidien. De se souvenir que le mental, le fameux mental, c'est pas juste quand on est à quatre pattes dans un fossé dans la forêt à se demander ce qu'on fout là, c'est aussi tous les jours quand on doit aller rouler, en tout cas selon les conditions que l'on a pour préparer ces trucs, c'est aussi ça le mental, la préparation mentale, c'est l'engagement au quotidien, c'est l'investissement que l'on met dans ce que l'on fait, l'intensité que l'on met dans ce que l'on fait, et ça commence exactement là.
Je suis d'accord.
Donc là, aujourd'hui, j'ai dévoilé ma deuxième playlist. Hein, Diams, Jennifer. Bah oui, mais j'ai deux enfants, donc à un moment donné, je peux pas écouter que du black metal, quoi.
Pas de problème.
Les enfants aiment pas.
On t'excuse.
Voilà. Je prends une dernière note. Et non, je suis arrivé au bout de mes... au bout de mon interrogatoire, Thomas Bourri.
Bah super.
En tout cas, ça fait 3 ans, je crois, qu'on fait des épisodes ensemble. Je suis hyper fier de toi. Parce que entre le premier épisode où tu m'as raconté ton explosion à la Tout Volcano, et aujourd'hui où tu respires la sérénité, où certes, il y a encore 2-3 petits trucs qui déconnent, 2-3 petits trucs à régler, mais Paris ne s'est pas monté en un jour. Je suis quand même super super content pour toi et vraiment heureux de voir cette progression, cette sérénité que tu affiches. Est-ce que tu es assis ou est-ce que tu flottes au-dessus du sol?
Je flotte sur ma chaise à synchro.
C'est bien ce que je pensais.
Je flotte.
C'est bien ce que je pensais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure en beauté?
Merci pour tes remarques. En t'écoutant sur ce point-là, oui, il y a pas mal de chemin qui a été fait. Oh, ça m'a mis l'émotion, mon Dieu, ce que tu m'as dit. Parce que je pense, ça m'a. Ah,
mais putain,
ça
les mecs, vous êtes vraiment trop émotifs.
Ça m'émeut. C'est pas possible. Tu sais pourquoi ça m'émeut? Parce que surtout pas par rapport à moi, en fait. Je pense aux gens qui m'entourent et que ce chemin-là, je l'ai pas fait seul. Et que c'est pas forcément, voilà, c'est pas évident tous les jours sur tous les points, mais que c'est ça la vie, quoi, c'est trouver des solutions et tout, et voilà, et je suis super fier des gens proches que j'ai autour de moi, parce que sans eux je serais pas qui je suis aujourd'hui, et je peux que les remercier, et je vais pas les citer parce qu'ils savent très bien qui ils ou elles sont. Et voilà, en avant, on continue vers la sérénité. On n'a pas parlé des 3 derniers jours qu'on suivit après ce coup de moins bien. Donc la fin de la course est quand même plutôt pas trop mal passée, mais a été juste voilà.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça a été un modèle de gestion et de
je me suis tenu à
d'application de ta stratégie. Ça se voyait, ça se sentait. Il y a juste, si je peux me permettre, une petite remarque, tes selfies quotidiens, je me suis dit, Thomas, tu pourrais quand même rester concentré. Tu pourrais rester appliqué, même pour reprendre tes propres termes.
On a fait beaucoup de téléphones pendant ces journées sur le vélo. Après,
un petit peu quand même.
C'est toujours ces courses-là, c'est aussi toujours un peu un dilemme pour essayer d'apporter un peu de visibilité et faire vivre aux gens l'intérieur des courses, que ce soit pour les gens, mais aussi pour tes sponsors, et rester concentré. J'ai pas mal de rushs que j'ai pris avec ma GoPro, qui sont un peu une espèce de journal de bord de mes états d'âme. J'ai plutôt été bien diligent sur le process. 2 à 3 fois par jour, je partage un petit peu mes l'intérieur de ma tête. Je pense que ça verra le jour soit sur YouTube ou autre support prochainement. Voilà, c'est en train d'être mis en forme. Je suis content de partager un peu ça de l'intérieur. La suite, je reprends l'entraînement structuré à partir de la semaine prochaine. Mes prochaines courses, ce sera donc The Track à 360 après la Highland Trail 550 fin mai, et j'ai une dernière course en fin de saison qui est l'Alpe Divide. On peut mentionner que j'avais prévu de faire le Tour Divide cette année, mais l'industrie du vélo va pas très bien, que boucler ses sponsorings, c'est jamais évident, que t'as beau finir 3e place sur l'Atlas, ça ne change pas la face des choses. 95% de mon année sportive est financée de ma poche ou de la vente de mes vélos de mes anciens sponsors. Voilà, acheter mes vélos. Les prochaines étapes, continuer à mener ce projet-là en parallèle de mon projet sportif, en trouvant l'équilibre. Je pense que cette année, c'est une année qui sera importante pour l'équilibre économique de ce projet, que ce soit vélo et sur la partie pro. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn à Thomas Bourri, Toto Supertramp sur Instagram. J'aurai mon site totosupertramp.com bientôt en ligne, et puis bientôt ma chaîne YouTube Toto Supertramp, qui est déjà ouverte mais qui n'a pas de contenu, mais qui verra son contenu arriver très prochainement. Voilà, j'essaie de pas juste être un cycliste athlète, essayer de communiquer un peu plus.
Un cyclopreneur.
Un cyclopreneur, essayer de partager un peu plus cette passion. Et voilà. Et merci encore.
Merci Thomas.
Allez,